Aujourd'hui, bien, l'Église, en cette mi-novembre, nous invite à méditer sur les fins dernières, sur la récapitulation de l'histoire, sur la conclusion de l'histoire. Dimanche prochain, c'est la fête du Christ-Roi qui va clôturer l'année liturgique pour ouvrir sur une nouvelle année liturgique. Oui, la méditation des fins dernières, les fameux discours eschatologiques de Jésus. On n'en parle pas souvent, seulement à cette occasion, quasiment, mais le temple en est le point de référence de ces discours. C'est ce qui les démarre et en même temps ce qui les ponctue tout au long du discours de Jésus. Chez les synoptiques, les trois, on trouve le même discours quasiment, ils sont très proches les uns des autres. Ici, ce qu'on a lu chez Saint-Luc, c'est la première partie. C'est juste la première partie du discours de Jésus. Alors, elle est divisée en trois. Il y a la dénonciation des faux prophètes qui viennent au nom du Seigneur, se font passer pour lui, en disant que c'est son message qu'il publie. Et puis, il y a le contenu même. C'est aujourd'hui la fin du monde, diront-ils. Et souvent, tout au long de l'histoire de l'Église, eh bien, ces faux prophètes se sont manifestés. Et Jésus dira bien que c'est le premier des signes, ça. Les antéchrists, tous ceux qui s'opposent au Christ. Puis, il y a les premiers signes apocalyptiques qui sont décrits là par le Seigneur, mais c'est seulement les premiers. Tremblements de terre, famine, épidémie, phénomènes effrayants et grands signes venant du ciel. C'est un peu général, vous voyez, il rentrera dans le particulier tout à l'heure. Donc il y a des signes dans la création même de Dieu. Et ensuite, et ça se conclut, par la persécution des chrétiens, avec cette recommandation d'être vigilant et de donner notre vie à ce moment-là, comme le Christ sur la croix a donné la sienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir dans l'amour, mourir d'amour en d'autres termes. Il ne faut pas se laisser impressionner par le monde et ses valeurs. Il faut toujours regarder le Christ jusqu'au bout. Mais ça, c'est seulement la première partie du discours de Jésus sur la fin des temps. En d'autres termes, ça décrit l'histoire de l'Église tout au long des âges. C'est continuellement que se dressent des faux prophètes, c'est continuellement aussi qu'il y a des signes de fléau, va-t-on dire, dans la création pour avertir les hommes. Et c'est malheureusement aussi le temps constant des persécutions, avec bien sûr des accélérations ci ou là à différentes périodes. Je dirais que c'est pas encore la fin des temps. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore le moment. La fin des temps n'arrivera pas tout de suite. Tout ça, voilà, et c'est aujourd'hui le texte que l'Église nous propose. J'aimerais pourtant vous donner le plan complet du discours du Seigneur. Il y a trois autres parties qui décrivent cette fois-ci, à proprement parler, la fin du monde. Ça commence par la chute de Jérusalem et la victoire des païens, avec cette recommandation de quitter la ville. Là, ce n'est pas le moment de résister, ce n'est pas le moment d'être dans la ville, il faut la quitter au contraire. Jérusalem est pleinement livrée aux mains des païens. Chez Matthieu et chez Marc, il précise aussi que dans le temple sera érigée l'abomination de la désolation, c'est-à-dire une idole à la place de Dieu, une statue d'idole, là, d'un Dieu étranger, mis dans le Saint des Saints. Tu sais, on ne peut pas faire pire comme blasphème. Ça, c'était donc la première partie de cette seconde partie dont je vous parle maintenant de la fin des temps. Ensuite, il y a des signes dans les astres. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles tombent sur la terre. Il y a des signes dans la mer. Tout cela, vous voyez, ce sont les éléments que l'homme ne contrôle pas. L'homme, il habite sur la terre, il maîtrise la terre, mais la mer, c'est une immensité dont il a toujours eu peur. Il ne la maîtrise pas. Elle est habitée par une force chaotique et sauvage qui emporte tout lorsque elle se fâche. Il en va de même pour les astres. C'est un monde, eh bien, que l'homme ne scrute pas, enfin scrute d'en bas, mais le regarde de très loin. Il n'y habite pas, il n'y fait pas de colonisation, rien du tout. C'est un monde qui lui est à jamais complètement impossible de rejoindre. Voilà des signes, non seulement sur la terre, ça c'était précédemment avec la chute de Jérusalem et puis le discours qu'on a lu aujourd'hui, mais même dans ces mondes qui lui sont inaccessibles, la mer ou l'espace, le cosmos, eh bien, même là, il y a des signes. Et c'est pourquoi c'est caractéristique, évidemment, d'une manifestation divine. Ensuite, en troisième place, arrive la parousie, c'est-à-dire la venue du Christ, sa seconde venue. Il vient dans la gloire, avec grande puissance, et il inaugure le jugement. Voilà l'ensemble des discours eschatologiques. Les disciples demandent, mais par quel signe reconnaîtrons-nous le début de la fin des temps ? Et le signe, c'est pas seulement ce qui nous permet de décrypter les étapes éventuelles où on se trouve, c'est aussi le sens profond de cette fin des temps. Et le sens profond, eh bien, c'est la parousie elle-même. C'est Dieu qui se révèle dans sa vérité ultime et qui nous dit qu'il est notre fin à chacun d'entre nous et à tous les hommes. Le signe de la venue de la fin des temps, ce sera le rejet du Christ par le monde entier comme au temps de la Passion. Au temps de la Passion, il l'a vécu uniquement dans le monde juif. À la fin des temps, c'est dans un monde global, globalisé, que le Christ sera rejeté par tous les hommes. La fin des temps, c'est notre chemin, nous dit donc le Christ aujourd'hui, tant individuel que collectif. Oui, c'est le sens du chemin que nous parcourons. Nous savons bien que nous allons tous mourir un jour, mais on se le dit comme ça, en passant. Évidemment, quand on vieillit, on y pense un peu plus sérieusement que lorsqu'on est jeune. Mais là, c'est au niveau collectif. On a toujours l'impression, parce que nous sommes limités, nous autres humains, dans le cycle du temps, on voit les choses jour après jour, on a toujours l'impression que le monde, les sociétés qui nous entourent, les royaumes, comme disent les textes de l'Écriture, les empires, tout cela est indestructible, que ça ne passera pas, que leur loi préside à l'éternité quasiment. Eh bien, Jésus nous dit que ce monde-là s'écroulera. Il nous fait voir dans un récit très coloré. Et c'est important de faire nôtre ce récit pour se dire que vraiment, les sociétés, et notamment la nôtre, tout simplement, dans laquelle nous vivons, cette société n'a rien d'éternel. Et nous la voyons, nous la sentons craquer dans tous les sens. Et elle pourrait très bien, effectivement, s'écrouler. Or, ce que disait Augustin à l'époque de la chute de Rome, au moment, eh bien, c'était un moment crucial, la chute de Rome. Rome, c'était devenu un symbole pour les chrétiens, comme pour les païens auparavant d'ailleurs. Son écroulement semblait emporter avec lui toute la civilisation romaine. Saint Augustin dit non, ne vous inquiétez pas. C'est pas là-dessus que se fonde la vérité, c'est pas là-dessus que se fonde la vie. Elle se fonde sur le Christ. Oui, les empires finissent par disparaître. C'est une chose à laquelle nous devons penser. C'est toutes ces guerres, ces rumeurs de guerre, comme dit Jésus, qui nous font sans cesse penser que rien n'est acquis définitivement. Quand on vit dans la paix, on devrait vraiment se réjouir et tout faire pour l'entretenir, cette paix. Les peuples qui vivent dans la guerre eh bien, se mordent les doigts de ne pas avoir agi auparavant, en amont, pour empêcher le désastre dans lequel ils se trouvent. Imaginez les Ukrainiens. Bien sûr, il y a des prétextes à la guerre, bien sûr, la Russie les a attaqués, mais qui les a plongés dans la guerre elle-même, d'une manière aveugle, sans calcul préalable? Il y a des pays, il y a surtout les États-Unis, mais peu importe. C'est leur manque de vigilance au niveau du peuple et pas seulement des gouvernants. Et cette vigilance, c'est celle que le Christ nous demande d'avoir en conclusion de ce récit. Veillez et priez pour ne pas être surpris lorsque ce jour viendra. Donc, les trois textes d'abord là que nous avons lus, les trois parties de ce premier discours, regardent l'Église dans son histoire tout au long des âges. Donc les faux prophètes, réalisation, qu'est-ce que c'est que le faux prophète? C'est celui qui dit, on va réaliser le royaume des cieux sur la terre. Fondamentalement, c'est ça, c'est toujours ça. Alors, peu importe le degré de vérité ou d'erreur de sa doctrine, c'est couper l'éternité de son discours. Ça, c'est le faux prophète par excellence. C'est l'un des critères majeurs pour les reconnaître. Les premiers signes apocalyptiques, ce sont des avertissements nettement de Dieu envers les hommes. Donc, et les guerres aussi, c'est associé à ces signes cosmiques. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on perd complètement la maîtrise du monde social. Quand on entre dans une guerre, c'est un désastre total. On a perdu le contrôle. Donc on est dans la destruction pure et simple. La persécution, enfin, nous enseigne que le monde n'est pas neutre. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Cette idée de neutralité du monde. Notre société, la laïque, aime bien se présenter comme étant neutre. Elle n'a jamais été neutre vis-à-vis de la religion. Elle a toujours été persécutrice. C'est un mensonge pur et simple. Et il faut s'enlever cela de l'esprit. Un monde qui rejette Dieu forcément. C'est la définition du monde. Sinon, ce serait l'Église. Le monde, lui, ne peut pas accepter Dieu. Le monde est entre les mains d'un prince, le prince de ce monde, qui n'est pas Dieu, mais qui est le diable. Le monde est l'ennemi de Dieu. C'est une des grandes affirmations de ce discours eschatologique de Jésus. C'est la raison des persécutions. Persécutions qui ne sont pas justifiables autrement, sinon par cette haine incontrôlable du monde envers Dieu et envers ses fidèles. La chute de Jérusalem maintenant, donc on commence à la seconde partie du discours eschatologique, c'est une victoire apparente du paganisme contre l'Église. Ce sera un moment où il semblera que le monde antichrétien semble triompher complètement de l'Église et semble avoir évacué des sociétés, toutes les valeurs chrétiennes à quelque niveau que ce soit. Et c'est alors que s'intensifient justement les déboires du monde, ces grands fléaux que Jésus nous décrit à ce moment-là. On se rendra compte, que les chrétiens, par leurs prières, maintiennent le monde, comme le disait saint Ignace d'Antioche. Oui, la prière des chrétiens maintient le monde dans un certain équilibre, le préservant de tomber dans l'abîme et dans tous ses fléaux. Mais le jour où Jérusalem, donc l'Église, sera conquise, ce jour-là, on pourra mesurer à quel point la prière de l'Église était importante. Les hommes, les païens eux-mêmes le mesureront. Les signes dans les astres, le soleil, la lune qui perdent de leur clarté, Ce sont les vérités religieuses d'une part, mais aussi les vérités profanes d'autre part, scientifiques ou philosophiques, qui cessent de briller, qui cessent d'être enseignées, qui cessent d'être propagées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme la plaie des ténèbres en Égypte, la 9e plaie. Eh bien, le monde devient soudain obscur pour tous les païens, pour tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Et cette obscurité, c'est un égarement des esprits, mais qui n'est pas gratuit, qui conduit au désespoir. L'homme qui n'a plus la perception du sens de sa vie, qu'elle soit individuelle pour lui-même, mais collective aussi, puisqu'on a besoin les uns des autres et des structures sociales, lorsque tout cela n'a plus de sens, eh bien l'homme tombe dans le désespoir. Et le désespoir, c'est ou bien il s'écroule dans la dépression, ou bien il devient un barbare qui détruit tout. Voilà ce que c'est. La plaie des ténèbres engendre cela. Donc on comprend les guerres, on comprend tout cela à partir de ce moment-là. Jésus nous dit, vous vous échapperez, mais il faudra vous mettre au désert, comme le dit le texte de l'Apocalypse, auprès de la Vierge Marie. Et là, veillez et priez. Mais il faut veiller et prier avant, en amont, nous dit-il, pour que cette heure ne tombe pas sur vous à l'improviste, qu'elle ne vous trouve pas, engluée en quelque sorte dans les choses de la vie, dans les quêtes de la nourriture, du logement, du confort, tout ce qui fait la vie sociale, quoi. Et ne vous laissez pas engluer par ça, c'est-à-dire engluer, couper de la vision de l'éternité. La vision de l'éternité nous dit le monde qui passe est fragile. Il est fragile individuellement pour chacun d'entre nous. Nos corps sont bien fragiles. Mais le monde lui-même qui se présente avec une force apparente est d'une extrême fragilité lui aussi, parce qu'il repose en fait sur le cœur de chacun, sur la prière de chacun, ou le manque de prière de chacun. Voilà, le Seigneur nous dit, pensez aussi à la fin des temps. La fin de l'histoire humaine, cela viendra et ça inaugurera ce grand jugement dont il nous parle.